Bonsoir à toutes et à tous, c'est Michel Minier, Christiane Thiria, donc de la section de Remiremont, Ligue des droits de l'homme. Donc c'est nous qui animons aujourd'hui encore l'émission La parole est à vous de Michel Gravier, à qui on fait un grand coucou. Salut Michel, on espère que tu vas bien et te revoir bientôt parmi nous. En tout cas, on a une grande pensée pour toi. Donc aujourd'hui, on va parler de deux sujets, plus quelques petites annonces que fera Michel également. Alors, le premier sujet, concerne notre conférence débat qui est prévue le 30 octobre à 20h30 au Centre culturel de Remiremont. En fait, nous nous sommes partenaires avec Étienne Géin et les fameux paniers bio, donc une association pour le bio et environnemental. Voilà, on va vous expliquer un petit peu. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Tu veux peut-être dire vite fait sur ce que tu vas intervenir,
donc,
Michel.
Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc ce soir, je vais aborder aussi le sujet sur l'eau. Mais avant, ce serait bien de voir un petit point, par exemple, sur la vie associative en France, puisque ce soit Radio Guémozo, la Ligue des droits de l'homme et bien d'autres,
toutes
sont
associations.
Des associations, ouais. Et donc elles sont concernées par le financement, qui peut être plus ou moins remis en question actuellement. Donc c'est un grave problème dans une démocratie. Parce qu'il faut savoir que les associations en France, ça représente 1,5 million d'associations. Donc ça, c'est des chiffres de 2022. 1,5 million d'associations en France. Et par exemple, dans cette année-là, il y avait quand même 66 000 nouvelles associations qui ont été créées. Alors, il faut savoir que ça représente quand même un chiffre important, plus de 12 millions de bénévoles. Et puis aussi des volontaires du service civique, 145 000. Et puis des salariés, 1 800 000 salariés. Alors ça concerne des domaines très divers, que ce soit le sport, la culture, mais aussi le social, la santé, dans l'éducation, l'environnement et plein d'autres domaines, puisque ça couvre quand même 1,5 million d'associations diverses. Donc le nombre de bénévoles est très considérable et le panel aussi est très important. Donc à sauvegarder ce tissu en France qui permet quand même beaucoup, beaucoup de choses. Ça représente même au niveau économie, ça représente quand même 9% des salariés du secteur privé. Donc c'est vraiment un secteur à sauvegarder.
Tout à fait. Voilà. D'autant que parmi toutes ces associations, comme tu le disais, il y a beaucoup d'associations aussi qui s'occupent des autres. On va trouver des associations de défense. On va trouver, moi je pense aux associations de défense pour la femme en France, qui se sont vues quand même pour certaines baisser les subventions de pas loin de la moitié et qui ont été obligées de se séparer de salariés. Et à partir du moment où, dans une association importante, on se sépare de ses salariés, ça veut dire qu'on va être obligé, à un moment donné, on ne pourra plus tourner de la même façon, on ne tournera plus, on ne sera plus aussi performant, on n'aura plus autant de permanence, on ne pourra plus... C'est tout un travail qui est fait par une salariée tout au long de l'année. Et quand on en enlève une, quand on en enlève deux... une personne bénévole ne peut pas faire à elle seule le travail de deux autres. Voilà. Ça, c'est
parce que si on prend le cas, par exemple, de la Ligue des droits de l'homme, il y a donc des bénévoles sur le terrain, mais il y a besoin aussi, par exemple, d'avoir des avocats, d'avoir une structure nationale
qui puisse
être fiable, être permanente, pour pouvoir seconder tous les bénévoles qui, eux, ne sont pas forcément spécialisés dans le domaine. Donc, ils ont besoin de s'appuyer sur ces gens compétents et professionnels qui sont salariés, pour une part. Donc, il y a besoin d'avoir cet ensemble. Des financements, c'est très, très important, voire même vital pour des associations si on les baisse de façon importante.
Ah oui. Voilà. Il y a, alors, aujourd'hui, je ne sais pas, hein, mais avant les vacances, il y avait quand même, un nombre assez important, hein, d'associations qui avaient fermé leurs portes, hein, qui ne pouvaient plus continuer, justement, parce que parce qu'une personne toute seule bénévole ou deux personnes bénévoles ne sont pas, on n'est pas apte en tant que bénévole à faire autant de travail que va faire un salarié qui souvent est spécialisé en la matière.
Ben oui, c'est ça le problème. Quoi,
c'est, hein, ça le problème. Oui. Nous, on voit bien au niveau Ligue, chaque réunion trimestrielle, on a quand même ou une avocate ou quelqu'un de spécialisé qui vient, qui nous fait une formation sur un des sujets. Donc, à partir du moment où on commence à réduire les subventions, où on, il faut dire aussi que les associations ont besoin de locaux.
Oui.
Hein, il y a les locaux, il y a tous les frais qui vont derrière ça, donc c'est quelque chose quand même d'assez énorme. Donc, il faut quand même qu'on se batte, hein, aussi. Ça aussi, il faut se battre pour garder nos associations.
Surtout que beaucoup actuellement au niveau de l'État se défaussent sur les collectivités locales, territoriales, hein, et qui elles aussi ont des problèmes de financement. Donc, si elles ne peuvent plus, par exemple, fournir des locaux ou autres services, et bien effectivement, après, ces associations ne peuvent plus fonctionner, quoi.
Ah oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, on était quand même un pays avec beaucoup, beaucoup d'associations. Ça fonctionnait pas mal, hein, quand même, hein, surtout ces associations de défense. Et donc, ce serait quand même dommage. Donc voilà, on a vraiment tous besoin de l'aide de tout le monde, hein, parce qu'il faut que tout le monde se sente
concerné.
Oui. C'est quand même un sujet qui est grave, moi je trouve, hein, oui. Parce que c'est un sujet qui est grave. C'est quand même un droit. Et on est en train de nous retirer par le fait de baisser ou de retirer les subventions.
Donc
voilà notre ami, voilà Michel. Coucou,
oui.
Michel.
Donc, en attendant que Michel intervienne, il y a deux petits points quand même qu'on peut évoquer. Cette année, donc, on peut fêter les 80 ans de la sécurité sociale, hein, qui a été mise en place après la guerre en 1945, hein, et donc qu'on bénéficie actuellement. Et donc, c'est quelque chose à protéger, hein, et non pas à casser par différents moyens. Donc vraiment à prendre conscience qu'on est un pays où on peut se faire soigner, quels que soient ses revenus, et puis après tous les autres aspects, que ce soit retraite et autres. Donc il faut vraiment en prendre conscience et à la défendre. Hein, donc 80 ans, et ça a été en plus mis en place à un moment où la France était cassée, hein, au niveau humain, mais au niveau matériel, elle était vraiment par terre. Et donc bon, c'est important d'en avoir souvenir.
Ouais.
Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est sur la laïcité. Eh bien, ma foi, on fête cette année les 120 ans, hein, de la loi sur la laïcité, hein, de 1905, qui a permis de séparer l'État, hein, donc au niveau de la réglementation. Hein. Donc, c'est important d'en avoir conscience sur la laïcité. Qu'est-ce qu'on a mis dessous à l'époque et aussi actuellement? Comment est-ce qu'on la voit, on la considère? Comment c'est perçu, ben, par les dirigeants et aussi par la population, hein, par l'ensemble? Comment est-ce qu'ils se sentent concernés par cette loi?
Oui, c'est ça. En fait, quand on a, ça devient une habitude, en fait. La sécurité sociale, la laïcité, les associations, on a l'impression que on cherche plus vraiment à savoir où ça en est et si tout va bien. C'est comme l'hôpital, on a l'impression que tout va bien, voilà, ça suivait son cours. Et puis quand le coup prétombe, le coup prétombe. Et il faut quand même se rendre compte que tout n'est pas acquis et que c'est très vite fait, surtout dans les gouvernements, de nous retirer une partie, puis une autre partie, puis une autre partie. Et puis un jour, on se lève et on n'a plus rien. Et là, une fois qu'il faut revenir en arrière, c'est quand même beaucoup plus difficile pour tout le monde. Voilà, on ferme la petite parenthèse.
Oui, sur ça. Il faut encore signaler que, par exemple, cette année, là, Robert Badinter, donc l'avocat très connu qui a été ministre de la Justice, hein, en son temps, Donc il a, il va rentrer au Panthéon, donc c'est quand même quelque chose de très important. Il a été membre de la Ligue des droits de l'homme, mais il est connu pour sa loi sur la peine de mort, hein, l'abolition de la peine de mort, qui était quand même quelque chose de très controversé. Il a pris d'énormes risques en voulant forcer sur cette loi. Et puis après, la défense de tout le monde, quoi, vraiment, que ce soit au niveau des prisons, au niveau même de défendre tout le monde, y compris les pires criminels, hein, parce qu'il estimait qu'ils avaient le droit d'être défendus. Ce n'est pas prendre fait et cause pour ces gens-là, mais c'est défendre tout le monde, quel que soit ce qu'il a fait. Ça peut être d'accord, c'est différent. Donc il a bien fait la séparation. Donc c'est quelqu'un vraiment qui s'est engagé toute sa vie pour la défense, hein, comme avocat.
Oui, voilà. Lui, il était pour la présomption d'innocence jusqu'au moment où tout était prouvé.
Quoi. Voilà. Et puis même au niveau, par exemple, des prisons, il avait quand même, qui actuellement pose des fois question, hein, il avait quand même des positions très très fermes. Hein, et il voyait la prison comme un lieu et un temps d'amendement et de réinsertion. C'est important. À ses yeux, la fraternité inscrite au fronton de la République est en effet inséparable de la dignité. Donc la prison, oui, pour préparer, mais aussi pour réinsérer à la fin de la peine. C'était quelque chose qui était important pour lui, parce que sinon, la prison ne jouait pas son rôle.
Oui, il rejoignait beaucoup Simone Veil, hein, sur les prisons, oui. Sur la dignité, elle avait fait déjà beaucoup aussi, elle, pour la dignité en prison, etc. Et c'est vrai que ça fait partie quand même des grands hommes et des grandes femmes qu'on a pu avoir en France.
Et puis qui ont été quand même très droits en assumant des risques personnels par rapport finalement, même à leurs amis politiques et autres, des notions qui leur étaient très chères, qu'ils ont défendues bec et ongles, hein, contre même l'opinion publique. Hein, parce que ce soit Simone Veil ou Badinter, s'il y avait eu un référendum, ils auraient été désavoués tous les deux.
Oh bah oui.
À l'époque, et actuellement, c'est encore pas mieux. Quoi.
Non.
Donc voilà, donc c'est des gens qui ont été vraiment très droits, très dignes dans leur conviction.
Donc maintenant, on va venir sur le sujet.
En train de reprendre un petit peu le fil, parce que j'ai été quand même un bon moment, pas indisponible complètement, mais presque. Alors maintenant, ça y est, c'est reparti.
On est bien content de te voir. Alors, le sujet, on a deux sujets. Nous, on va prendre. Là, moi, je vais commencer avec le sujet des paniers bio. Le sujet de notre conférence du 30 octobre, mais pas que. Hein, le problème des pesticides, etc.
L'ordonnance verte, c'est ça?
Oui, l'ordonnance verte. Alors, on est toujours dans le sujet que toi, tu avais. Traité déjà une fois.
Oui, avec Étienne.
Avec Étienne et puis Monsieur Tisserand.
En même temps, puisque c'était
ici, en émission, oui.
C'est un des corps de la radio locale ici.
Voilà. Et donc, tu avais déjà, en s'entendant, tu avais déjà parlé des pesticides et tout ça avec le docteur Tisserand. Et donc, le 30, au Centre culturel de Remiremont. Et on parlera donc de... La conférence va traiter de ça. Et en fait, ils vont attirer l'attention, ils veulent attirer l'attention. Ils se battent déjà depuis des mois pour agir le plus tôt possible. C'est un devoir citoyen pour la santé des enfants à naître. Ce qui est précisé hein, quand même dans leur rapport, pardon, c'est qu'il faut prévenir, nourrir et protéger dès les 1000 premiers jours de la conception de l'enfant, voire même quand on se dit on va faire un enfant, il faut même le prévoir un petit peu à l'avance pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté et surtout du côté de l'enfant à venir. En sachant que dans les premiers jours, hein, les 1000 premiers jours, donc ça va quand même jusqu'aux 2 ans du bébé, hein, de la conception aux 2 ans du bébé, c'est une fenêtre de sensibilité majeure pour la future santé et en particulièrement pour le développement cérébral. C'est durant cette phase que le cerveau d'un enfant triple de volume et les expositions environnementales, qu'elles soient chimiques ou autres, peuvent laisser une empreinte durable. Ce concept est connu sous le nom de DOAP. Il est aujourd'hui largement reconnu par la communauté scientifique à l'origine de recommandations des autorités sanitaires. Donc, il y a eu un rapport Gluckman qui est sorti en 2010 et l'UNICEF a aussi sorti un autre rapport en 2016. Donc maintenant, c'est vraiment reconnu. On ne peut plus dire on ne savait pas que tout ce qui est pesticides, tout ce qui est polluants chimiques, de toutes les façons, hein, quelles qu'elles soient, peuvent entraîner des cancers, mais aussi des maladies neurodégénératives. Donc, il existe une présomption très, très forte d'un lien avec l'exposition maternelle pendant la grossesse et la survenue des cancers pédiatriques qui sont en recrudescence. Hein, ça, il faut le dire. Ils sont en recrudescence, les cancers d'enfants. Certaines maladies aussi, certaines malformations et les troubles neurodéveloppementaux. Donc c'est énorme hein, quand même le fait de... Parce que en fait, les pesticides, on en a partout. Des polluants, il y en a dans l'air, il y en a partout, il y en a... Donc c'est vrai que quand on se dit... Eh ben oui, bon, c'est pas grave. Si, c'est grave, en fait, surtout quand on est enceinte. Hein, c'est grave pour les bébés qui vont naître. Et d'ailleurs, c'est ce qui est précisé. L'État reconnaît les effets des pesticides puisqu'il existe aujourd'hui un fonds d'indemnisation pour les agriculteurs et leurs enfants atteints de problèmes de santé reconnus comme un lien avec une exposition aux pesticides. On a fait quand même un... Une belle avancée, je trouve, hein, parce que, enfin, une belle avancée, si on veut, au moins c'est reconnu. Avant, c'était même pas reconnu, donc les gens se battaient, c'était des coups d'épée dans l'eau. Aujourd'hui, il y a quand même une loi, il y a quand même un fonds d'indemnisation. Après, c'est vrai que quand on pense au film qu'on a vu il n'y a pas longtemps,
oui,
Goliath, qu'on a présenté le mois dernier, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire, hein, parce qu'à partir du moment où il y a une grosse firme industrielle derrière ça, ce n'est pas gagné pour être reconnu.
C'est quand même grave de dire que pour sous couvert de concurrence, y compris on va mettre la santé des gens en péril.
Oui, c'est hein, ça. C'est ça. C'est ça, c'était très bien, ça ressortait très bien dans le film oui. Goliath. Alors là, on était en plein dedans. Donc, en fait, vu les risques avérés, c'est vrai que les associations hein, qui se battent contre ça, eh bien, préconisent vraiment la prévention. C'est la prévention qui est la seule voie raisonnable pour lutter contre les maladies infantiles dues aux pesticides. Et tout ça, ça passe par une information des femmes et des hommes qui sont en âge d'avoir des enfants. Et notamment, dans tout ça, on met également l'alcool, le tabac et bien les sûr. Médicaments lors de la période de préconception et des premiers mois de grossesse de la vie du bébé. Comment protéger l'enfant ? Eh bien, le protéger, eh bien, il faut quand même avoir un contrôle limité sur son environnement. Tant les sources sont multiples, il y a les sources de contamination, on les retrouve partout. On retrouve les pesticides, les polluants chimiques dans l'alimentation, dans l'air, dans l'eau. Donc bien sûr, on les retrouve aussi dans le placenta, mais on les retrouve aussi dans le liquide céphalorachidien. C'est là où c'est vraiment terrible parce que ça peut entraîner justement des malformations du bébé, du fœtus et de graves problèmes à la naissance. Donc, les études ont montré, quand même les études Nutrinet Santé et Esteban, ont montré que les consommateurs de produits biologiques présentent un risque réduit de développer les pathologies chroniques et une diminution dans leur organisme de la teneur en pesticides. Donc, aujourd'hui, on reconnaît tout ça, puisque les études scientifiques qui sont faites... sur les groupes qui font attention à ce qu'ils mangent, qui essaient de faire attention, et les autres s'avèrent vraiment mauvais pour tout ce qui a pesticides.
C'est très préoccupant.
Mais par contre, maintenant, c'est vrai que on est on est quand même tous face à un gros problème. C'est le problème de l'argent, c'est le problème du baisse de niveau. C'est le problème, on en parle sans arrêt, hein, des très riches et puis des pas riches du tout. Pour que tout ça soit équitable, Étienne, Jean Tisserand, des gens comme Jean-François Maglia, mais aussi toutes des infirmières, hein, tous des réseaux d'infirmières et tout, se sont mis quand même, se sont regroupés et essaient de faire entendre aux municipalités, aux départements, etc., hein, à tous ceux qui pourraient éventuellement participer à un financement pour aider ces mamans, quel que soit leur revenu, quelle que soit leur situation sociale dans la société, à pouvoir se nourrir correctement avec des bio, avec des produits alimentaires. Et c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est ce qu'ils essaient de faire comprendre, c'est ce qu'ils essaient de faire passer aux élus, c'est ce qu'ils vont essayer de faire encore le 30 octobre au Centre culturel, à travers la conférence qu'ils vont tenir.
20h30, c'est ça ?
20h30 au Centre culturel Zog de Remiremont.
Sur ça, donc, il y a quand même plusieurs points qu'il faut retenir. C'est déjà le financement au niveau national de la recherche, surtout parce qu'il y a des milliers de produits chimiques qui sortent régulièrement. Et donc, tout ça, c'est, s'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent soit l'innocuité, soit le danger. Et donc, c'est beaucoup d'argent, hein, public, et c'est dans le contexte actuel, des fois, on peut s'abriter ça facilement. En plus, qu'il y a souvent des pressions des industriels pour limiter ces choses-là. Déjà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, par exemple, au niveau départemental ou local, pour aider dans ce cas-là de financement, il y a des fois, par exemple, dans les écoles, il y a des communes, voire des départements qui financent un peu pour qu'il y ait des produits bio à la cantine. Donc avec le coût, hein, quel coût ça représente. Donc l'aider pour que les cantines n'augmentent pas leur prix de façon significative, en tout cas pour ça. Ce qui fait un choix quand même politique, hein, de mettre de l'argent public pour ça. Et par contre, c'est la même chose pour les femmes enceintes. Hein, s'il y a de l'argent public à mettre dedans. Mais le problème, c'est que les communes, les collectivités territoriales, comme les départements, sont un peu soumis actuellement à une baisse de leur financement, hein, de leur fonctionnement. Donc, sur quoi elles vont réduire, hein, quand il y a une baisse, sur quel poste elles vont réduire ou mettre l'accent.
Par contre,
donc, ça, c'est un problème. Donc, d'où la pression aussi de...
Il y a une ville, il y a une ville en France, une grosse ville, hein, c'est Strasbourg. Strasbourg qui, face au constat, a joué carrément le jeu avec les femmes enceintes, hein, ou en parcours de PMA, qui peuvent recevoir sur prescription médicale, donc juste une prescription médicale de leur médecin, des paniers hebdomadaires de fruits et de légumes bio et locaux, à condition quand même de participer à des ateliers de sensibilisation à la santé environnementale qui est animé par des professionnels. Normal, on leur donne des paniers bio, donc il faut qu'elles sachent pourquoi, il faut qu'elles sachent tout ce qu'il y a derrière et ce qu'il faut qu'elles fassent après quand même. Et les résultats sont notés comme remarquables. 90% des participantes ont modifié durablement leurs habitudes alimentaires, même après l'accouchement. 70% déclarent avoir amélioré leur état de santé physique et mentale. Ça, c'est important, hein. 82% des coparents s'impliquent et renforcent l'impact familial. Et les comportements sont maintenus après la naissance dans 90% des cas. Donc, c'est une belle réussite, hein. Le coût moyen de Strasbourg par grossesse est de 420 euros. C'est pas énorme sur 9 mois de grossesse, avec un retour sur investissement qui est considérable. Puisqu'ils disent qu'il y a une meilleure santé maternelle infantile, il y a un soutien à l'agriculture biologie au circuit court, puisqu'après elles vont voir les producteurs locaux, une meilleure cohésion sociale et une préservation de l'environnement. Le dispositif à Strasbourg est cofinancé par la ville, l'ARS, l'assurance maladie et des acteurs locaux. Rennes, Angoulême.
La PMI aussi ?
Non, elle n'est pas citée. Elle n'est pas citée dedans. Mais bon, il y a l'assurance maladie, donc je pense
oui,
quand
bien
même
sûr.
Que oui. Et donc, il y a des acteurs locaux. Et du coup, ils sont suivis par d'autres villes, comme Rennes, Angoulême, Trappes, Chizé. Donc voilà, pour le moment, c'est quand même quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui est important, on le voit bien, hein, les chiffres sont là. C'est quelque chose qui est maintenu par les familles qui ont eu droit à ces paniers hein, alimentaires. Et ce sont donc des familles complètes, hein, parce qu'il y a la grossesse, mais des fois, il y a d'autres enfants devant ce bébé qui à venir. Et du coup, toute la famille est impliquée dedans. Et on peut espérer que du coup, tout va... que ça va changer petit à petit, mais que ça va changer. Je pense que j'ai fait le point. On peut rappeler le 30 octobre à 20h30 au centre socio-culturel. Venez nombreux.
Les enfants de Gaza, orphelins, les enfants de Gaza, meurent de faim, dans leurs yeux dévastés, le soleil se déchire, les enfants de Gaza ont-ils un avenir? Sous les bombes jour et nuit, les enfants ne dorment plus, la terreur a envahi chaque instant de leur vie. Toi qui les condamnes à mort, comment peux-tu t'endormir? Un soldat c'est bien plus fort qu'un enfant qui respire.
Les enfants de Gaza, orphelins, les enfants de Gaza, meurent de faim, dans leurs yeux dévastés, le soleil se déchire, les enfants de Gaza, ont-ils un avenir?
Survivants désespérés, d'un massacre à bout portant, ils n'ont plus rien à manger, que les herbes des champs. Quand les villes bombardées jettent un peuple dans les rues, c'est le rire des enfants qui nous manque le plus.
Les enfants de Gaza, orphelins, les enfants de Gaza, meurent de faim dans leurs yeux dévastés. Le soleil se déchire, les enfants de Gaza ont-ils un avenir?
Dans la guerre et dans le sang, dès le jour du premier cri, dans la haine des deux camps, c'est là qu'ils ont grandi. Ils réclament leurs parents, ils recherchent leurs amis. Rien ne peut ressusciter une enfance assassinée.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes toujours sur l'émission de Michel Gravier. La parole est à vous. Christiane Thiria et Michel Minier au micro pour la Ligue des droits de l'homme. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Michel? Tu voulais reprendre un petit peu la parole? On a de nouveau Michel
oui,
parmi nous.
Simplement rendre hommage aussi aux pionniers de l'environnement ici. Pour citer Jean Altel, parmi tout ça, ben oui, je pourrais citer une dizaine de personnes qui ont vraiment été dans la lutte contre les pesticides sur le secteur. Voilà, mais enfin, bon, on va pas rappeler surtout le 30 octobre. Voilà. 20h30.
À Remiremont, au centre socioculturel Gilbert
voilà.
Zog.
Rue de Franche-Pierre, voilà.
Maintenant, c'est Michel qui va reprendre. Hein. C'est toi qui vas nous parler de l'eau, Michel, maintenant. Hein.
Oui, parce que c'est un sujet qu'on connaît tous, mais des fois très mal. Hein, en tout cas, qui est quand même avec problème pour différentes raisons. Déjà, au niveau de la qualité, du prix de l'eau, qu'est-ce qu'on a droit? Il y a eu aussi dans les Vosges l'affaire Vittel avec Nestlé, hein, pour sur différents points, hein, au niveau du droit, mais aussi au niveau de ce que ça comporte au niveau environnemental et pour les gens locaux. Donc déjà l'eau, qu'est-ce que c'est ? Donc l'eau, il faut savoir en quelques chiffres que la plupart de l'eau sur la Terre, c'est-à-dire 72% de la surface est couverte par de l'eau. Mais l'eau, c'est principalement de l'eau salée, hein, qui représente quand même 97%, donc 3% seulement de cette eau est potable, enfin, c'est-à-dire douce, pas potable, douce, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de sel. Et dans ces 3%, eh ben, il y en a une partie, c'est des lacs, etc., de l'eau souterraine, de l'eau de rivière, donc des glaciers. Hein, les glaciers, c'est de l'eau douce, etc., mais non utilisable pour l'activité humaine. Et dans cette eau, au niveau mondial, il faut quand même savoir, sur la population totale, qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services d'alimentation en eau potable. Il y a le problème de l'eau potable d'en avoir. Et puis après, dans beaucoup de pays, il y a aussi, une fois que l'eau est utilisée, eh ben, tout ce qui est épuration de l'eau, hein, parce que oui. S'il n'y a pas épuration de l'eau, elle revient dans le circuit, mais non potable. Donc, il y a un gros problème dans beaucoup de pays. Et puis, c'est l'assainissement. Hein. Donc, il y a plus de 3,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un service d'assainissement. Pas en France, mais dans des pays comme l'Afrique et autres. Alors, ça a des conséquences quand même énormes au niveau santé. Donc, il y a à peu près plus d'un million de décès attribuables à un manque d'accès à l'eau ou au problème d'assainissement, donc d'eau non potable. Pour différentes raisons, hein, que ce soit des polluants chimiques ou bactériologiques, hein, quand on voit le choléra, des maladies comme ça, hein, c'est lié entre autres à ça, quoi. Et donc, par exemple, en France, faut savoir quand même que combien on consomme environ par an, par habitant, c'est environ 150 mètres cubes, hein, pour un foyer classique. Et ça a un impact sur le prix, hein, parce que le prix, dans ce qu'on paye dans l'eau en France, au robinet, eh bien, il faut savoir qu'en moyenne, ça coûte en gros 4,30 € par mètre cube. Mais là-dedans, il y a la moitié, c'est pour l'accès à l'eau, hein, c'est-à-dire capter l'eau et l'approvisionner, hein, jusqu'au robinet. Mais la moitié, c'est pour l'assainissement. Ça, il faut bien en prendre compte.
Oui.
Hein. Et l'assainissement, c'est important parce que sinon, eh bien, y a pas de, l'eau potable se dégrade. Donc c'est très très important et c'est un coût, la moitié du prix de la facture de l'eau. Et dedans, et puis après l'eau, il y a différentes formes au niveau de l'eau. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. L'eau au niveau français, une grande partie par exemple, mais c'est de l'eau qui circule. Pour les centrales nucléaires par exemple, elles ont besoin de beaucoup d'eau pour refroidir les centrales. Il y a aussi de l'eau qui est prise pour défalimenter les canaux. Hein, et ça, c'est aussi en volume important. Ce n'est pas de l'eau perdue, mais c'est de l'eau qui n'est pas utilisée pour la consommation humaine classique. Et puis après, il y a une partie quand même pour les usages industriels, que ce soit, on le sait, hein, pour le papier, le coton et plein d'autres. Hein, donc une partie quand même. Une partie non négligeable pour l'agriculture, dont l'irrigation, avec le problème qu'il y a dans la loi du plomb de ces méga-bassines, hein, qui a été remis dans cette loi. Alors, l'irrigation, mais principalement dans certaines régions, et puis surtout pour des cultures comme le maïs, grain, etc., hein, pas forcément pour le maraîchage qu'on pourrait penser. Donc, c'est un usage qui est controversé, et où il y a une loi qui est en cours de validation, la loi du plomb, qui concerne ces méga-bassines. Donc c'est un enjeu quand même de l'eau. Qu'est-ce qu'on en fait, hein, comment on la redistribue? Et puis, ma foi, une partie pour la consommation courante des ménages. Et dans cette consommation des ménages, faut savoir à peu près comment ça se répartit. Hein, par exemple, pour les ménages, faut savoir que sur les 150 litres, en gros, d'eau potable par jour, hein, qu'on consomme par personne en France, et presque la moitié, 60 litres, c'est pour les douches et le bain. Il y en a 30 litres pour les WC, les toilettes. La lessive, la vaisselle, pareil, hein, un peu plus de 35 litres. Et seulement 10 litres pour l'alimentation, pour les boissons et l'alimentation, faire cuire les légumes. Donc vous voyez, sur les 150 litres, il n'y en a seulement que 10 litres qui servent vraiment à l'utilisation pour l'alimentation et la boisson. Le reste, et puis une partie pour le jardin, et puis la voiture, enfin laver la voiture, des choses comme ça. Donc c'est quand même petit. Et finalement, l'eau vraiment potable qu'on a besoin, c'est 10 litres. Hein, et le reste, y a moins besoin qu'elle soit potable dans les 150 litres qu'on utilise tous les jours. Donc ça, c'est un gros problème pour récupérer de l'eau pour les communes. Et ensuite, pour l'assainissement.
Et la recycler.
Et la recycler, parce qu'il y a besoin de la rejeter dans la nature le plus propre possible. Qu'elle soit réutilisée. Sinon, si on rejette des polluants, ça revient. Ça, c'est... Et donc, tout ça, des gros frais importants, d'où le coût de la moitié du prix qui est dû à l'assainissement. Mais ça, c'est indispensable, parce qu'il y a aussi l'assainissement bactériologique, etc. Mais chimique, bactériologique, on l'a vu tout à l'heure avec Christiane, sur les conséquences sur les enfants, mais sur toute la... L'écosystème,
les
adultes, et puis aussi les animaux, les plantes, etc. Hein, parce que si on rejette, y compris les plantes, qui ensuite sont nourries, sont consommées par les animaux, et qu'on consomme, donc après, on retrouve ça jusqu'à nous, quoi. Hein, parce qu'on est quand même le dernier échelon, quoi.
Pas oublier non plus les déchets plastiques.
Ah ben oui, non mais ça...
Notre univers, y compris créé de véritables...
On le voit, par exemple, pour notre consommation, les micro-particules et les choses comme ça. Et puis les PFAS qui actuellement
qui
sont...
Qui rentrent dans nos consommations actuelles. Voilà.
Donc
de plus en plus fréquemment.
On n'y pense pas, on pense aux gros sachets plastiques qu'on retrouve dans la mer ou partout. Mais il y a aussi des micro-particules qu'on ingère. Et puis, il y a aussi le problème actuel qui est soulevé sur les PFAS. Donc, ce qu'il y a, par exemple, dans les casseroles et autres, qui est un sujet ancien, mais connu. Mais pour autant, il n'y a toujours pas d'avancée réglementaire sur ça, parce qu'il y a des intérêts économiques importants derrière ça. Et donc, tant qu'il n'y a pas des études vraiment qui démontrent la nocivité de ces produits-là, ça continuera, quoi.
C'est le même système que les paniers alimentaires tout à l'heure.
Sauf que pour les enfants et les femmes enceintes, c'est encore plus crucial. Mais pour l'ensemble de la population, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est plus général.
Du début à la fin de la chaîne, produits, on est tous concernés.
Cancérogènes.
Sans parler les médicaments, justement.
Aussi.
Médicaments, toutes les pilules, tous les...
Donc c'est vrai que le problème de l'assainissement de l'eau, c'est considérable. Mais après, il faut prouver, on l'a vu dans le film de Goliath, il faut prouver par exemple qu'un produit est cancérigène et que c'est bien ce produit-là qui développe un tel cancer. Donc ça demande des études scientifiques très poussées, sans controverse, parce que l'industrie aussi produit des études pour montrer que ce n'est pas dangereux. Donc, ce n'est pas ça. Donc, ça veut dire aussi un gros financement national, voire européen, parce que des fois, les pays, quand c'est des études de fait, ça sert à tout le monde. C'est le principe de la science. Ce n'est pas limité à un pays. Donc, c'est vrai que des fois, certains pays ne veulent pas ou ne peuvent pas financer des gros projets de recherche, surtout qu'il y a des milliers de produits nouveaux, chimiques et autres. Donc, c'est compliqué, quoi. Ça doit être à un niveau, des fois, européen, ce financement.
En ce qui concerne les perchlorés, les PFAS, je crois quand même que les études ont été menées jusqu'à présent, ont conclu à ne se viter de ces produits, malheureusement. Mais bien sûr, il y a une industrie puissante derrière qui est parce que il suffit pas simplement de constater la nocivité de ces produits, encore faut-il les interdire à terme parce que c'est trop dangereux, beaucoup trop dangereux.
On est vraiment sur la bataille entre les industriels et puis...
C'est un rapport de force, parce qu'on le voit avec la loi du plan, c'est un insecticide qui a été remis au goût du jour. Donc là, c'est vraiment un rapport de force économique, en disant... Les agriculteurs, parce que ça concerne uniquement les betteraviers, il faut quand même remettre ça dans le contexte. Donc, dans les Vosges, ça ne concerne personne.
Non.
Si ça concernait beaucoup, beaucoup de céréales, Tefal et puis bien sûr Seb, oui. Hein, qui était très implanté dans les Vosges.
Ah ben pour les PFA, oui.
Il faut pas l'oublier quand même que aujourd'hui on a fabriqué c'est sûr des instruments de cuisine qui étaient pratiques certainement, mais malheureusement aujourd'hui on s'aperçoit quand même des effets nocifs de ces perfluorés. Hein, oui. Les fameuses PFAS. Et voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on va les interdire? Parce que c'est quand même trop dangereux de continuer à amener sur le marché des casseroles, par exemple, qui contiennent des PFAS. Et on n'est sûr de rien en la matière.
Non, non.
Oui, mais c'est là le problème, quoi. C'est qu'on ne sait pas à long terme.
Je crois que les consommateurs ont aussi d'être vigilants par rapport à aujourd'hui. Parce que là, c'est vrai qu'on va parler, bien sûr, d'ordonnance verte. Mais c'est vrai que dans notre environnement, sans qu'on sait bien sûr les plastiques, on continue à charger notre environnement de produits qui sont nocifs à la santé. Donc il faut tenir les deux bouts de la chaîne, j'allais dire. C'est-à-dire avoir une saine, mais aussi dans des contenants, dans des habitudes de vie qui soient saines également. Oui. C'est-à-dire
redescendu à ce niveau-là, hein, qui est le niveau quand même intéressant. Puis après, ça redescend plus localement, hein, au niveau de chaque commune, et y compris même au niveau après l'utilisation dans chaque commune, comment est prélevé l'eau, puis ensuite redistribué. Donc après, là, il y a différentes formes de réglementation. Hein. Soit les communes font le choix d'une délégation de services publics, parce que c'est elles quand même qui sont responsables de l'accès à l'eau par les usagers, pour les usagers. Donc soit c'est elles qui le gèrent, avec des régies, ou soit elles délèguent ça à des entreprises privées. Et donc ça a des conséquences importantes sur, déjà, le prix, mais aussi sur le choix qui peut être fait par rapport sur l'aspect de tout ce qu'elles veulent mettre en œuvre. Quand c'est délégué à une société privée, elle, son but, son intérêt, c'est de faire des bénéfices, quoi. Faut être clair. C'est pas péjoratif, hein. Toute entreprise privée a une obligation de faire des bénéfices. Ça, c'est la loi qui le prévoit, donc c'est normal. Oui. Mais par contre, la commune ne peut plus intervenir sur les choix qui sont faits par cette régie, quoi. Hein. Donc ça, c'est clair. D'où, finalement, le retour, des fois, dans certaines communes, de cet aspect-là. Mais il faut voir que c'est pas uniquement la distribution de l'eau qui pose des fois problème. Mais c'est surtout l'assainissement, de par les nouvelles normes qui sont liées aux polluants, qui contraignent donc déjà l'élaboration de contrôles, mais aussi de techniciens pour pouvoir le faire et le surveiller. Toute cette mise en... Et puis après, de ces stations d'épuration, qui sont toujours de plus en plus complexes par rapport au nombre de choses à régler, et aussi par rapport aux normes qu'on leur impose, qui viennent souvent de l'Europe, mais enfin, il ne faut pas non plus accuser l'Europe, ça descend. Donc, des normes qui peuvent être de plus en plus nombreuses et compliquées avec des laboratoires. Donc, il faut aussi des techniciens très compétents, d'où des coûts qui ne peuvent pas toujours être supportés par les communes, peut-être par les communautés de communes, enfin, en tout cas, trouver une formule comme ça, mais c'est compliqué, quoi. Donc, des fois, elles choisissent la solution de facilité de déléguer ça à une société privée qui, elle, a les moyens techniques de pouvoir mettre ça en œuvre.
Et sans oublier que dans l'assainissement, il y a tout le réseau, tout l'entretien du réseau,
avec des coûts faramineux, compagnie privée, bien sûr.
Voilà.
Et puis, quand il a fallu changer, il y a des endroits dans les communes avaient des réseaux d'eau plus ou moins vieux, plus ou moins usagés, avec des fuites, avec des tuyaux.
Oui, ça peut représenter beaucoup de pourcentages, les fuites.
Beaucoup, plus. Voilà, donc en fait...
40% de pertes.
Ah oui, donc en fait, c'est vrai que c'est un sujet énorme, surtout quand on pense, quand il faut commencer à changer des réseaux, des rues entières, etc., etc. Donc, c'est des sommes considérables.
Donc, ce qui fait que par rapport à tout ça, il y a le droit à l'eau. Donc, on a dit tout à l'heure qu'effectivement, au niveau international, il y a un droit à l'eau potable. Mmh. Mais après, l'application est au niveau national. Eh bien, qu'est-ce qu'on met sous ce terme-là, droit à l'eau? Parce que le droit à l'eau, on l'a vu récemment avec les méga-bassines.
Oui.
Dans certaines zones, qu'est-ce qu'elles font? C'est pas récupérer comme des barrages. On peut faire, il y a des barrages, il y a des petits barrages aussi le long des rivières ou des fleuves. Là, c'est différent. C'est un pompage dans la nappe phréatique. Et ça, la nappe phréatique, elle appartient à qui? Et déjà, est-ce que c'est un bien privé quand on pompe, pour soi personnellement? Parce que les méga-bassines, c'est une utilisation privée, même s'il y a une dizaine de personnes dans une forme de coopérative sur une méga-bassine, mais enfin c'est privé. Donc il y a uniquement eux qui prélèvent de l'eau et pour remplir pour l'utilisation de ces quelques personnes, quelques agriculteurs. Donc est-ce que c'est l'eau souterraine, est-ce qu'elle est publique, enfin commune à tout le monde, ou est-ce qu'elle est privée quand on pompe et ensuite qu'on la redistribue de façon privée?
C'est une bonne question.
C'est un choix politique, ça.
Alors ça, c'était le sujet de notre avocate il y a 8 jours, qui est venue justement sur tous ces petits points où on se posait plus ou moins des questions, et elle a apporté quand même... son savoir qui nous a été bien utile.
Voilà, parce que c'est un grand sujet de société, ça, le droit. Oui. Le droit public, le bien commun, etc. Tout ça, c'est des termes philosophiques, mais aussi qui doivent s'appliquer dans le droit. Parce que sinon, on ne peut pas l'utiliser. Et donc, le droit, c'est compliqué. C'est pour ça qu'elle est spécialisée. C'est Madame Grâce
Favel.
Et donc, elle est spécialisée dans le droit sur l'environnement, quoi. Donc, elle nous a présenté au niveau de l'eau. Comment est-ce que, il y a des lois sur lesquelles peut s'appuyer pour justifier certaines interventions sur ça, quoi. Donc c'est compliqué parce qu'entre ce qu'on décide au niveau politique ou autre, et puis ce qui est mis en application, et sur quoi on peut s'attaquer au niveau réglementaire et judiciaire, c'est pas simple. Donc elle nous a présenté pas mal de documents sur ça, de lois, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, l'interpréter, quoi.
Et puis, elle nous a parlé aussi des méga-bassines, où financièrement, le prix de l'eau...
Augmente, parce qu'en fin de compte,
énormément.
Ce qui était prévu. Donc finalement, à la rigueur, c'est un frein, parce que ces méga-bassines, c'est de l'eau qui est pompée, contrairement à ce qu'on entend, c'est pas de l'eau
qui
circulante,
qui ruisselle,
c'est pas un barrage. Donc c'est de l'eau qui est pompée. Alors on va dire que c'est pompé l'hiver, pour mettre dedans, mais avec des fuites, etc. Et puis aussi, ils sont obligés, pour des raisons de protection, de mettre des grands grillages, des protections, etc. Ce qui fait que le coût est très élevé. Beaucoup plus élevé que prévu. Donc la rentabilité de ça, après, au niveau économique, est-ce que ça justifie? Parce que les méga-bassines sont financées par des fonds publics. C'est important. Donc il faut aussi voir le contexte. Donc c'est financer la construction de ces méga-bassines sur des fonds publics, pour des utilisations privées. Et en plus, en pompant de l'eau, alors après, quel est le droit sur l'eau qu'on pompe dans les nappes? Même l'hiver. Donc, est-ce que c'est...
Et aujourd'hui, le prix de revient, elle disait que du coup, il y a des méga-bassines qui sont prévues, mais qui ne se font pas par rapport à... Justement, ça fait reculer le coût d'une méga.
La philosophie de ça, c'est de... halte au gâchis de l'eau, parce qu'on est, dans une société où on a gâché beaucoup d'eau et on risque à l'avenir d'avoir des difficultés de plus en plus grandes par rapport à la gestion et puis à la possession de l'eau. Là, je crois que là, il faut quand même se rendre compte qu'il y a beaucoup d'enjeux. Que ce ne soit pas uniquement des enjeux économiques, mais aussi des enjeux sociaux. L'avenir de l'humanité aussi qui est en jeu.
Sur les rapports présentés, autant par Grâce Favel l'avocate, donc, et puis aussi par le spécialiste qui était présent aussi.
Pour Vittel.
Oui. Il apparaît quand même très nettement que, attention, dans les 25 prochaines années. niveau de l'eau. Hein.
Et oui.
Oui, parce que ça, l'eau, c'est un sujet quand même. Mais même d'ailleurs, cet avocat a abordé même des sujets qu'on n'y pense pas.
Oui,
pense par exemple aux centrales nucléaires qui a besoin d'eau pour refroidir. Bon, mais ça, c'est un sujet.
Oui.
Mais on ne pense pas, par exemple, qu'on se sert tous de data, c'est-à-dire que par nos ordinateurs, par nos téléphones portables, etc., il y a besoin de grosses machines, donc des disques durs énormes, qu'il faut refroidir. Donc on a besoin d'eau, mais de l'eau circulante, certes, mais en fait de l'eau quand même en volume important pour refroidir. Donc un peu comme les centrales nucléaires. Donc tout ça, on n'y pense pas. Il faut réglementer.
En fait, c'est que tout mis au bout l'un de l'autre, ça fait des mètres cubes et des mètres cubes et des mètres cubes et des mètres cubes. Enfin, c'est énorme, en fait. Hein. C'est énorme,
Donc, l'utilisation de l'eau, au niveau politique, il y a des choix à faire. Et au niveau législatif, quoi, donc français, mais aussi européen, parce qu'on n'y échappe pas. Hein. Ça ne peut pas être que français, souvent, au niveau de l'eau.
Non,
réglementations européennes et ensuite qui soient déclinées dans les pays. Mais ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Quoi. Et puis, le principe, là, c'est ce qu'elle a avancé, cette avocate. Pollueur-payeur, mais c'est toujours comme ça, quoi. Mais c'est compliqué, parce qu'on l'a vu avec les algues vertes en Bretagne, etc.
Et
autres. Et parce que, évidemment, celui qui va polluer va dire, ben non, il n'y a pas que moi ou c'est pas moi. Hein. Donc, il faut arriver aussi à justifier que ça vient bien de lui pour le faire payer, au niveau de législation, quoi. Ouais, c'est important.
Oui. Vaste sujet. Hein. C'est vrai que c'était très passionnant, d'ailleurs, ce matin.
Mais il est obligé de se spécialiser dans ce domaine-là, parce que c'est très complexe. Quoi.
Oui, tout à fait. Je crois qu'on en aura bientôt... On va bientôt terminer. Je crois qu'on arrive au bout de l'émission. On va peut-être quand même rappeler notre... Michel, peut-être un mot. Tu veux rappeler de nouveau la conférence du 30 ? Hein, il faut bien préciser, regardez bien vos calendriers et vous verrez que le 30 octobre, c'est un jeudi. Voilà, ce n'est pas un vendredi, c'est un jeudi. C'est rare qu'on fasse des conférences, nous, au niveau de la Ligue, les jeudis. Mais bon, pourquoi pas, c'est très bien. Et puis comme ce sera le week-end de la Toussaint.
C'est la distribution aussi du centre Gilbert
Gibelzog, oui, 20h30.
Qui est prêté pour l'association. Voilà.
Ouais. Donc, il ne faut pas oublier.
Pour cette conférence.
Ce sera le jeudi 30.
Et puis les partenaires aussi.
Les partenaires, oui, tu as raison, on peut les citer. Hein, donc, d'autant plus que c'est eux qui font tout le boulot. Hein. On est à leur côté parce qu'on est complètement dans. On est complètement dans ce sujet. On est complètement, on se bat aussi pour les mêmes choses. Donc, alors les acteurs bio des Vosges, bio en Grand Est. Donc nous, Ligue des droits de l'homme, section de Remiremont. Et puis voilà. Après, on a aussi le docteur Jean Tisserand, le docteur Étienne Géin, qui seront accompagnés de Marie-Claire Mougel, sage-femme. Venez, parce que ce sera très intéressant.
On peut citer aussi Jean-Joseph Maguilla.
Ah bon, on peut le citer, je ne sais pas s'il sera là.
Je pense qu'il sera là.
Donc, bienvenue
voilà.
à Jean-Joseph Maguilla, qu'on a déjà rencontré, avec qui on a déjà fait deux conférences.
Ben, oui, et puis qui est partie prenante, de toute façon.
Ah, je crois que les médecins, quand on voit Jean Tisserand, il est complètement engagé sur le sujet. Étienne Géin, Jean-Joseph Maguilla.
Et puis derrière... Et Damato aussi, avec Jean Tisserand, bien sûr.
Tout le monde, en fait, tout le monde est engagé. On est tous sur le même combat parce qu'on a tous compris, les enjeux énormes qu'il y avait derrière, quoi. Donc, je crois qu'on a terminé.
Surtout qu'on est...
Eh bien, bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir et bonne semaine.
Et bonne semaine, à bientôt.
Voilà. À tous et à toutes.